France Culture.
À voix nue, Philippe Bresson. Quelques jours avec
Sandrine Bonner.
Troisième épisode, le miracle du vent.
Je ne sais sur quoi vous me voulez interroger. Par aventure, me pourriez-vous demander telle chose que je ne vous dirai point.
Quand avez-vous commencé à entendre ce que vous nommez vos voix?
Quand j'eus l'âge de 13 ans, j'eus une voix de Dieu pour m'aider à me gouverner. Et la première fois, j'eus grande peur. Puis vint cette voix, environ l'heure de midi, au temps de l'été, dans le jardin de mon père. Jeanne d'Arc, procès de Rouen, 1431. Extrait.
Comme Jeanne, c'est au sortir de l'enfance que vous avez été appelée, contre toute attente, pour aller à la rencontre de votre destin. Choisi par l'un des pères du cinéma français, oserais-je dire élu, vous qui n'aimiez rien tant que danser ou chanter avec insouciance, voilà que du jour au lendemain vous devenez cette page blanche sur laquelle les cinéastes les plus aventureux, les plus charismatiques, vont vouloir imprimer leur vision. Nouvelle icône d'un cinéma d'auteur qui, à travers vous, fait entendre sa voix. Et le miracle opère. Je me souviens de cette scène dans le film de Jacques Rivette, Jeanne la Pucelle. Sur les bords de Loire, les compagnons attendent des bateaux chargés de vivres et d'armes. Or, le vent leur est contraire et ils ne peuvent avancer. C'est alors que vous apparaissez, dans la peau de Jeanne, bien sûr, et le vent change de sens. C'est le miracle du vent. Bonsoir, Sandrine Bonner.
Bonsoir.
Est-ce que ça n'était pas un peu impressionnant de jouer le rôle de Jeanne d'Arc, même si Rivette était aux commandes, après la grande Falconetti dans le film de Dreyer, mais aussi Bergman, Ingrid Bergman, pardon, chez Victor Fleming ou encore Jean Seberg avec Otto Preminger, sans oublier la Jeanne d'Arc de Robert Bresson. J'imagine que c'est impressionnant, non?
Oui, c'est impressionnant et c'est très intimidant.
C'est ça.
Surtout après Falconetti, je dirais. Parce que, bizarrement, Bergman... Je ne devrais pas dire ça pour qui je me prends, mais je le dis quand même.
Ingrid Bergman.
Ingrid oui. Bergman, exactement. Et, le film était tellement mauvais que...
Je ne l'ai pas vu.
Vous n'avez rien raté, franchement. Du coup, je me suis dit, oh, je ne suis pas intimidée par Ingrid Bergman dans ce film. En revanche, Falconetti, pour moi, ça reste la plus grande interprétation de Jeanne d'Arc.
Alors dans ce film en deux parties, sorti sur les écrans en 1994, le réalisateur Jacques Rivette donc met davantage l'accent sur le politique, la femme libératrice, seule au milieu des hommes, qui a foi en la justice, audacieuse, déterminée, plutôt que sur la dimension mystique du personnage. Était-ce un choix délibéré de la part de Jacques Rivette, peut-être en accord avec vous, car ces qualificatifs audacieux, déterminés, ça vous correspond aussi, non?
Absolument. C'était un choix qu'on a fait ensemble, tout à fait. Et c'est d'ailleurs une des premières choses que je lui ai dites. Je lui ai dit, mais pour moi, Jeanne d'Arc, ça doit d'abord être une femme. Et il faut raconter la femme. C'est très important, puisque les femmes, à cette période-là, elles n'étaient pas... elles n'avaient pas toutes ces audaces et elles n'étaient pas confrontées aux hommes de cette manière-là. Et je trouvais que c'était très intéressant... De montrer une Jeanne entourée d'hommes, pas seulement la combattante avec son armée, mais de montrer une femme dans le sens désirable aussi. Et j'avais insisté, j'avais dit à Jacques, moi ce qui m'intéresse, c'est surtout ce qui se passe avant qu'elle vienne sacrer le roi. Et toute cette chevauchée, tout ce lien... aux hommes, ce regard des hommes sur elle était pour moi très très important.
Mais c'est-à-dire, Sandrine, que vous avez travaillé à la table avec Rivette et ses co-scénaristes, Pascal Bonitzer, Christine Laurent, vous faisiez partie des quatre?
Oui, alors j'ai pas écrit, hein, mais j'ai apporté des idées. J'ai surtout apporté des moments que je voulais jouer. Et j'avais envie que... Parce que j'avais adoré La Belle Noiseuse. Et je lui avais dit que j'avais envie que ce soit comme La Belle Noiseuse, qu'on prenne... Bon, les films de Rivette sont toujours très longs, il faut le dire. Mais je trouvais que l'histoire de Jeanne d'Arc permettait de qu'elle soit vraiment étirée. Donc, on prenne le temps d'être avec elle et de voir justement toute cette évolution qui a été sur une période assez courte, en fait. C'est passé sur 2 ans. Mais j'insistais beaucoup sur des détails, sur... cette femme qui ne sait pas monter à cheval, au départ.
Sur les faiblesses de Jeanne, finalement, aussi.
Voilà, tout à fait.
Et qui dit faiblesse, dit humain, sur son humanité.
Sur son humanité, c'est exactement ça.
Dans le
ça.
Livre Le roman d'un tournage, que j'ai trouvé très, très joli, publié en 1994 chez Lattès, vous décrivez un Rivette joueur, volontiers blagueur, farceur. Vous parlez de son sourire d'enfant. Ça n'est pas forcément l'image que le public a de ce réalisateur très érudit, volontiers élitiste, dans le bon sens du terme, à mon avis.
Oui.
Et pourtant, c'est quelqu'un qui s'amuse beaucoup.
Ah oui, c'était quelqu'un de très, très juvénile, même physiquement, il l'était.
Vous dites aussi avec Rivette, j'ai d'abord été totalement déboussolé, car sa direction consiste à obliger l'acteur à dissocier ses mouvements de sa parole. En quoi ça consiste exactement? Expliquez-nous.
Il n'aimait pas qu'on parle en marchant. Il fallait ou marcher ou parler. Et ça, pour le coup, au départ, c'était vraiment difficile pour moi. Parce que jusque-là, j'avais fait des films plutôt très en mouvement, très, très chahutés, très... Et c'est vrai que le cinéma de Rivette est très posé. Et même, j'ai eu l'impression de jouer avec tout mon corps. Parce qu'il faisait des plans très larges.
J'ai fini par prendre beaucoup de plaisir à me plier à la contrainte imposée par Rivette, écrivez-vous. J'éprouvais une certaine délectation à composer une musique avec mon corps. Chaque geste produit une note, chaque réplique une ligne musicale. J'avais l'impression d'être un premier violon dirigé par un chef d'orchestre. Les scènes de la prison avant le bûcher furent un régal pour moi. J'ai même vu Rivette pleurer après une prise.
Oui.
Quelle récompense ?
Ah oui. Ah, je l'ai vu pleurer, effectivement. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir. Un metteur en scène qui pleure après que vous ayez joué, c'est génial. C'est hyper gratifiant.
Pour Quelques jours avec moi, sorti en 1988, Claude Sautet exigeait lui aussi que vous soyez très précisément dans les marques. À chaque mot correspond un geste, dites-vous. C'était compliqué, là aussi, de respecter cette contrainte qui, on l'imagine, peut entraver une certaine forme de spontanéité.
Alors, Claude Sautet, c'est un de mes regrets. Je pense que je ne l'ai pas rencontré, en fait. J'étais trop jeune pour le comprendre, lui et son cinéma. Et du coup, j'ai pas tellement apprécié travailler avec lui. Parce que je me sentais enfermée autant avec Rivette. J'étais au grand air, enfin, je sais pas comment dire, j'avais de la place, même si tout était précis. Claude Sautet, j'avais l'impression d'être que mon corps n'existait pas, que j'étais saucissonnée. Il faisait tellement de plans et puis beaucoup de chants contre chants, ça je me souviens. Du coup, je me sentais, oui, prisonnière, pas vivante, enfin pas. Il y avait trop de choses, à mon sens, inutiles. Il était très pointilleux sur les raccords, sur des petits gestes. J'avais l'impression d'exécuter plus que de m'exprimer.
Ça, c'est une chose, mais quand vous avez découvert le film, qu'est-ce que vous en avez pensé?
Alors, pour moi, c'est pas son meilleur film. Je crois que j'aurais aimé qu'il fasse plus... qu'on fasse un film plus dans la veine de ce qu'il avait fait auparavant.
Alors là, j'imagine que vous avez été déçu, parce que c'est un film qui rompt complètement
totalement avec
ce qu'il a fait auparavant. Et moi, je vais vous dire, je l'ai découvert, ce film,
oui,
en préparant cette rencontre, et je l'ai beaucoup aimé. Évidemment, j'aime énormément Les choses de la vie, à l'époque où il travaillait avec Jean-Loup Dabadie au scénario, César et Rosalie. Pour ce film, il change d'équipe, Jacques Fieschi et Jérôme Tonnerre,
oui,
grand scénariste
grand
avec lequel
scénariste.
Vous travaillerez, nous en parlerons. Et je trouve qu'il y a dans ce film, et c'est assez émouvant, un nouveau souffle pour Claude Sautet, comme si il avait décidé ou pas, je ne suis pas dans sa tête, mais de jouer avec l'humeur de son temps. Et puis quel plaisir de retrouver Jean-Pierre Marielle, Daniel Darieux, Dominique Lavanant, parfaite comme d'habitude, et vous, Sandrine Bonner, face à un Daniel Auteuil en fils de famille, comment dirais-je, mal dans sa peau.
Oui.
La jeune femme que vous interprétez est un personnage qui est sans doute plus fantaisiste que ceux que vous aviez joués auparavant.
Par contre, effectivement, il m'a apporté ça, c'est-à-dire ce côté fantasque. Le personnage est quand même, on peut dire très, en tout cas dans le début du film, très fantasque.
Il est assez double.
Elle est assez double, exactement,
Monsieur Hir de Patrice Leconte, 1989. Vous y partagez l'affiche avec Michel Blanc, décédé brutalement le 3 octobre 2024.
Ah oui.
Quel partenaire était-il, Sandrine Bonner?
C'est une merveille, Michel. C'est quelqu'un avec qui j'avais envie de retravailler. D'ailleurs, on en parlait et c'était son souhait aussi. On a le même agent et on cherchait un projet à faire ensemble. Et c'est quelqu'un que j'aurais aimé diriger aussi. J'adorais cet acteur. J'adore cet acteur. Et l'homme était comment dire, assez chahuté, assez... pas drôle du tout, comme beaucoup de comiques, paraît-il. Mais ça restera un grand souvenir pour moi, Michel. Puis il était tellement brillant, intellectuellement.
Et complexe aussi.
Très complexe.
Très complexe. Oui. Un Michel Blanc spectral dans la peau de ce monsieur Hir, tenté par l'amour de la dernière chance. Et c'est votre personnage, Alice, qui incarne ce fantasme et qui en joue, notamment pour disculper d'un meurtre le garçon dont elle est amoureuse. Patrice Leconte parle de vous d'une manière assez intéressante. C'est une archive filmée de Lina que j'ai retranscrite. Il dit ceci. Sandrine Bonner a été la première actrice importante dans mon cinéma, dans le sens où elle a été la première à y tenir un rôle majeur et pas un rôle de rigolote comme ce fut le cas auparavant avec d'autres interprètes féminines. En l'observant, caché derrière l'œil de la caméra, j'ai ressenti à quel point on pouvait tomber amoureux des comédiennes que l'on filme. Il y a du monsieur Hir, je trouve, dans cette révélation.
C'est vrai.
Et il rajoute « À partir de ce film, je n'ai plus eu peur d'écrire pour des femmes. Les rôles féminins qui jusque-là me trottaient confusément dans la tête parvenaient enfin à s'exprimer. Et c'est vraiment Sandrine Bonner qui m'a ouvert les yeux. »
Oh, c'est joli. Merci, Patrice. Ça me touche énormément. Je ne connaissais pas cette interview.
Autre film important, Sandrine, La cérémonie, Claude Chabrol, 1995, adapté du roman de Ruth Randall, L'analphabète, paru en 1977. Vous incarnez dans le film la domestique analphabète qui trucide ses patrons. Et je me rends compte en le disant qu'on vous a souvent imaginé en meurtrière, dont sous le soleil de Satan, votre personnage tue son amant avant de se donner la mort. Dans Secret Défense de Rivette, là encore vous commettez un crime. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que les réalisateurs projettent volontiers sur votre visage « so light, so fair » l'image d'une criminelle?
Ah ben alors ça, j'en sais rien, ça m'inquiète un peu. Eh ben, je ne sais pas.
Et j'ai oublié quelque chose, Piala avait d'abord pensé à vous pour un projet intitulé « Meurtrière ».
Absolument.
Je suis pas tranquille tout à coup.
Ouais. je sais pas, peut-être...
Faudrait leur demander.
Faudrait leur demander, tout simplement, vous avez raison.
Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'éprouver des réserves avant d'accepter un rôle qui met en scène une certaine violence, voire une folie meurtrière, d'un point de vue moral, je dirais?
Absolument. C'est le cas pour Secret Défense. J'avais dit à Rivette, je veux savoir pourquoi elle tue. Quelles sont ses raisons? On est responsable des images qu'on crée, qu'on donne, ou d'une histoire qu'on raconte. Et je trouvais qu'il était important, je trouve qu'on est dans un monde de violence, et on banalise la violence. Et je n'avais pas envie de ça. Donc c'est exactement ce que je lui ai dit.
Revenons au film de Claude Chabrol, La cérémonie. Comment avez-vous abordé le personnage de Sophie Bonhomme, qui finit par tuer une famille entière avec sa complice, Jeanne, je crois, jouée par Isabelle Huppert?
Oui.
Quelle histoire vous êtes-vous racontée pour pouvoir l'interpréter et l'assumer?
Pour moi, c'est la différence de classe sociale. Et ça a été la raison que je me suis racontée, puis qui s'explique, enfin qui est racontée dans le film, tout simplement. C'est un trop-plein d'humiliation qui fait qu'elle en arrive là. Et en plus, c'est pas un meurtre prémédité. Ça arrive, ça explose, c'est le cas de le dire. Mais voilà, il y a un trop-plein de toutes ces petites humiliations qui fait qu'elle en arrive là.
À la sortie du film, Chabrol faisait un portrait glaçant de cette famille qui vous emploie. Il disait: ce qui est terrible chez les Lelièvre, famille bourgeoise qui vit dans une apparente harmonie, c'est qu'on ne peut pas leur reprocher grand-chose. À ceci près que chacun des membres de la famille, à un moment donné, accomplit une action dégueulasse, qui plus est sans s'en apercevoir, et ça tombe toujours sur la pauvre bonne, incarnée par Sandrine Bonnaire. La façon dont la mesquinerie se pare de fausses bonnes manières est assez réjouissante à observer. Cette phrase, elle résume un peu l'œuvre de Claude Chabrol, je trouve.
C'est vrai.
Et c'est aussi, je crois, ce film, un exemple parfait de ce qu'on appelle en psychiatrie la folie à deux. Séparément, Sophie et Jeanne sont inoffensives. Ensemble, tous les débordements, vous le disiez, sont permis jusqu'au crime. On peut imaginer que si la rencontre n'avait pas eu lieu entre ces deux femmes, peut-être elles ne seraient pas l'une et l'autre séparément passées à l'acte. Mostra de Venise, 1995, Coupe Volpi de la meilleure actrice pour Isabelle Huppert et vous, Sandrine Bonnaire. C'est agréable, j'imagine, de partager un prix aussi important avec sa partenaire de jeu.
Oui, moi, surtout Isabelle Huppert, qui est quand même une très grande actrice. Donc, qu'on ait reçu ce prix toutes les deux, j'étais fière, très très fière.
Un autre très beau film, un peu sous-estimé à mon avis, Est-Ouest de Régis Varnier. Vous êtes la femme française d'un médecin russe, joué par Oleg Menchikov, invité par Staline, comme des milliers d'exilés russes, à retrouver sa patrie à la fin de la guerre. Alors on vous a attribué une pièce dans un appartement communautaire, où vous vivez sous le regard des autres, d'autant plus menacée de délation qu'on imagine que vous êtes une espionne occidentale. Et ce film, en partie tourné à Kiev, résonne aujourd'hui d'une manière toute particulière.
Oh là là, complètement. C'est fou, hein? On revient... Mais je n'arrête pas d'y penser quand je regarde les infos sur ce conflit, enfin cette guerre. Je pense beaucoup à Est-Ouest et je me dis que c'est terrible, comme on rétrograde, quoi, comme on régresse. Enfin, que ce pays-là, cet homme Poutine qui... Voilà, oui, moi, clairement, ça me fait penser au régime stalinien, c'est clair. Mais c'est un de mes films préférés de ma carrière, vraiment. Et je suis heureuse qu'on en parle parce qu'on l'évoque pas souvent et c'est bien dommage. C'est un très grand film qui en plus comprend tout ce que j'aime, c'est-à-dire à la fois le romanesque, l'aventure.
Il y a une dimension mélodramatique. Tout à fait assumée. Très lyrique.
Absolument, très lyrique, exactement. Magnifiquement filmé, magnifiquement joué. Je ne parle pas de moi là, mais des autres,
ah, mais
de mes partenaires.
Ah, mais je peux le dire, vous êtes de tous les plans et vous êtes. Vous crevez l'écran pour dire une chose un peu banale, mais c'est vraiment le cas.
Merci. C'est un beau cadeau pour une actrice. C'est un de mes plus grands rôles, je trouve.
Vous aviez déjà travaillé à l'Est, au début des années 90, à deux reprises.
J'ai fait un film en 89 à Prague.
C'était en 89?
Ouais. Avec Bruno Gans. Et comment il s'appelait?
Ah oui, le film de Jan Seller, c'est ça?
Voilà, tout à fait. Et puis ensuite, dans les années 90, j'ai fait un film avec William Hurt qui s'appelle Confidence à un inconnu à Saint-Pétersbourg.
Un film de Georges Bardaville.
Voilà. Et c'était, on était vraiment ailleurs, c'était très très dépaysant, si je puis dire, hein. Puisqu'il n'y avait rien, tout était fermé, enfin c'était d'une tristesse sans nom, terrible.
Vous ouvrez le bal du 21e siècle avec Mademoiselle, une comédie romantique de Philippe Lioret, qui a eu beaucoup de succès. Est-ce que c'est important pour vous, la reconnaissance du public, Sandrine Bonnaire ?
Ah, bien sûr. Bien sûr, quand on fait quelque chose, on a envie que ça marche. Quand un film fait beaucoup d'entrées, bah, c'est génial, on est content.
Autre film qui a rencontré son public, c'est La Vie, de Jean-Pierre Améris, en 2001. Vous y avez pour partenaire Jacques Dutronc. Un film au sujet difficile, celui de la fin de vie, mais pas un film plombant pour autant. Plutôt non, un hymne à la vie.
Plutôt, absolument. C'est un film qui raconte la fin de vie, et donc pas forcément la mort. Et d'ailleurs, Jean-Pierre Améris disait « Tant qu'on n'est pas mort, on est vivant ». Et c'est ce qui se dit, comment dire, dans cette maison de Gardanne où on a tourné, qui est une maison spécialisée pour accompagner les gens qui sont en fin de vie. Et c'était leur état d'esprit. Tant qu'on n'est pas mort, on est vivant.
D'autant que des patients de la maison de Gardanne sont présents dans le film.
Absolument, oui. Et d'ailleurs, il y a quelques personnes qui sont mortes pendant le tournage. Donc c'était un peu chahutant pour nous. Et puis en même temps, il y avait quelque chose de serein aussi. C'est-à-dire que les gens laissaient une trace d'eux-mêmes dans ce film. Donc c'était doux, ils étaient heureux de ça. Donc du coup, leur départ était moins douloureux parce qu'ils avaient laissé quelque chose. Et Jacques Dutronc, c'est une des plus belles rencontres de ma carrière et je dirais même de ma vie personnelle. J'ai non seulement une totale admiration pour l'homme, pour le chanteur, pour l'acteur. Et je crois que ça a été, un des liens les plus forts que j'ai partagé en faisant un film. Et pas n'importe quel film, puisque c'est vrai que le sujet était quand même très, très fort. Et puis en plus, le tournage s'est arrêté, puisque j'ai été agressée par un homme. Et on a dû arrêter le tournage. Et ça a créé aussi un lien encore plus fort avec Jacques. Parce qu'il m'a tellement soutenue, tellement accompagnée, tellement... Et puis en plus, c'est la vie. C'est assez drôle parce que je me suis dit, bah ouais, c'est la vie. Et la vie, parfois, elle n'est pas toujours jolie. Et j'ai failli mourir aussi. Donc, c'était curieux de... Comment dire que ça se passe à ce moment-là, sur ce tournage-là. Enfin, pendant que je faisais ce film... J'ai pas mal médité après, je peux vous dire.
Je ne savais pas que cette agression que vous avez subie avait eu lieu durant le tournage de ce film.
Oui, c'était durant le tournage. J'avais une pause de 4 jours, donc je suis rentrée. Et j'ai été agressée par le compagnon avec qui je vivais à l'époque.
Et je crois que votre mâchoire a été fracturée.
Ah oui, j'ai une triple fracture de la mâchoire. J'ai tous les os cassés dans le... Les deux condyles de cassé, là en dessous c'est cassé, j'ai des plaques de métal dans la bouche. Et c'est vrai que je ne me sens plus du tout pareil aujourd'hui, même physiquement. Mais en même temps, j'ai envie de dire que cette fameuse phrase « tout ce qui ne tue pas rend plus fort », je crois que ça m'a beaucoup renforcée. J'aurais préféré m'en passer, on est bien d'accord.
Je repense surtout à la phrase de votre mère. Qu'est-ce qu'elle disait, votre mère ?
L'impossible est possible.
Ça revient un peu à ça, non ?
Ça revient un peu à ça, c'est-à-dire que... ça revient sur le fait, surtout quand on parlait du dur au mal, d'être dur au mal, et de se redresser. J'ai été bien courbée pendant très longtemps, mais je me suis redressée. Et c'est ça que j'ai appris, d'apprendre à se redresser, à se reconstruire.
Mais c'est surtout quelqu'un qui a essayé de mettre à mal ce que vous avez de plus lumineux, c'est-à-dire votre sourire, et de plus vivant aussi.
C'est ça. Comme par hasard, c'était ciblé là. Il aurait pu me casser une jambe ou un bras, mais non, c'était là. Donc, vous voyez, je continue à sourire et même à rire, et tant mieux. Et il n'a pas réussi à me prendre ça.
En 2007, Marion Lenne transpose à l'écran la nouvelle de Gustave Flaubert, Un cœur simple. Vous êtes félicitée, la servante au cœur simple. Je me souviens qu'à la sortie du film, vous disiez que ce personnage avait pu vous évoquer la Mona de Saint-Ouen-y-Lois, mais aussi votre sœur Sabine.
Oui.
En quoi Félicité leur ressemble-t-elle ?
Sur le fait que... Bon, déjà, dans ce côté un peu... je dirais pas infantile, mais enfantin, un peu... Ben, un cœur simple, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire cette innocence. Voilà. Félicité, c'est une femme innocente pendant tout le temps de sa vie. Même quand elle est vieille, elle reste innocente. Et le sort s'acharne sur elle, enfin, tous les malheurs tombent sur elle. Et Sabine, ça a été la même chose. C'est-à-dire que Sabine a subi tout plein de malheurs, alors qu'elle est... Elle est tellement innocente et tellement gentille, même si elle a des excès de violence.
Nous en parlerons dès demain, puisque nous évoquerons le film que vous lui avez consacré. Elle s'appelle oui. Sabine. Je rappelle que votre sœur Sabine est autiste et que ce film est aussi un film qui porte un engagement politique. Mais oui. Nous verrons tout ça ensemble demain. Je vous donne rendez-vous donc demain à 19h30 précise, ici chez vous. Vous viendrez ?
Ah, avec plaisir. Je serai là, je dirais même. Je vous attends.
Nous parlerons encore de cinéma et nous évoquerons les films que vous avez réalisés, films documentaires et de fiction. J'ai oublié un film, consacrons-lui quand même un peu de temps, parce que je crois que vous l'aimez beaucoup, 2017, Prendre le large, Gaël Morel vous a offert un beau rôle lui aussi, n'est-ce pas ?
Très beau rôle, très très beau rôle. C'est un très joli film. Et puis, c'est intéressant, le sujet est intéressant. C'est une femme française qui va aller travailler au Maroc.
Voilà.
Je trouvais que
le
sujet
contre-pied
était...
C'est le contre-pied des migrations marocaines
voilà,
vers l'Europe.
Exactement.
C'est vous l'étrangère.
C'est moi l'étrangère, et on me le fait bien sentir.
Et c'est ça qui m'a intéressé dans ce film.
Parce que le racisme, il n'est pas que dans un sens, il peut être dans l'autre aussi.
Cette idée est formidable.
Oui. Et pareil, Gaël, ça a été une grande rencontre... On espère refaire un film ensemble. Et il y a Joueuse de Caroline Bottaro.
Eh bien, dès demain, nous l'évoquerons. Car étrangère au Maroc, vous l'êtes peut-être, mais familière au fil des jours, un peu plus pour nous ici et on s'en réjouit. À demain.
À demain.
C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral. Prise de son, Lucien Lefebvre. Réalisation, Marie Placet. Une série de Philippe Bresson à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.